Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9 FM ou graphite.net en ligne. Donc je m'appelle Stéphane, je suis le responsable du cours IS03 Low Technicisation et Numérique à l'UTC. Et donc aujourd'hui, les étudiantes et étudiants qui ont participé à des projets toute l'année viennent présenter le résultat de leurs travaux. Donc je suis en ce moment avec Charline, Émilienne et Anaïs dans le studio. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
On a eu déjà deux premiers projets qui ont été présentés. Donc le premier, c'était le chaton sportif sur l'hébergement de serveurs alimentés par de l'énergie produite par des vélos. Ensuite, on a présenté le projet COSOCO sur la comptabilité de l'impact environnemental des citoyens. Et donc, à présent, eh bien, cette troisième présentation du jour va porter sur le projet Contrix Day. Je le fais avec l'accent. Je ne sais pas si vous prendrez l'accent picard ou nord-américain à votre choix. Et donc, l'objectif de ce projet, eh bien, ça va être de réfléchir à la réorientation de nos modes de déplacement en campagne. Eh bien, si c'est OK pour toi, Charline, je te passe la main pour démarrer.
Bon, eh bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, on va vous présenter le projet Contrixé, qui a été suivi donc, par Stéphane Croza durant le semestre. Donc, plus précisément, le projet Contrixé, c'est un projet qui est en lien avec l'extrême défi de l'ADEME, dont Émilienne va vous parler juste après. Et donc, l'objectif de notre projet, comme vous l'avez dit, c'est de réorienter les modes de déplacement des travailleurs ruraux en leur offrant un nouveau service de mobilité qui va se manifester sous forme d'une flotte dans chaque village de véhicules sobres pensés par l'ADEME, qu'on appelle des véhicules intermédiaires, dans une optique de soutenabilité et de convivialité. Donc on a développé deux pans particuliers du projet, donc un concept d'application qui va permettre l'usage du réseau de véhicules intermédiaires par les utilisateurs, notamment par de la location moyenne durée à la journée, et d'autre part le déploiement de ce réseau dans le paysage rural. Donc on a essayé d'imaginer le cadre dans lequel ces nouveaux véhicules ils vont pouvoir évoluer, ainsi que les services qui vont leur être associés dans l'espoir de pouvoir à terme modifier les habitudes de déplacement des habitants de nos campagnes. Donc on va vous passer un premier court extrait vidéo pour que vous compreniez donc pourquoi les campagnes de France ont besoin d'un renouvellement de leur offre de déplacement. Donc c'est une vidéo du Parisien qui date d'avril 2022 et qui s'intitule « Aller au travail à vélo à la campagne, une lubie de bobo parisien ».
D'après l'association Vélo et Territoire, 80% des déplacements quotidiens en zone rurale se font en voiture. Pourtant, la moitié des trajets est moins de 5 km. C'est donc carrément faisable en vélo et encore plus facile en vélo électrique. En France, environ 35% des ménages possèdent deux véhicules et ce chiffre grimpe à 70% lorsqu'il s'agit de couples avec enfants. En moyenne, 3 800 € sont consacrés chaque année par les Français pour l'entretien d'un seul véhicule. Et d'après les statistiques, plus les départements sont ruraux, moins ils possèdent d'aménagements cyclables. Un frein à la pratique en milieu rural qui pourtant serait essentiel pour atteindre l'objectif national de 9% des trajets effectués en vélo en France d'ici 2024. Selon l'Union nationale des associations familiales, remplacer une voiture par un vélo permettrait d'économiser entre 300 et 500 euros par mois. Mais bien sûr, faire du vélo au quotidien ne signifie pas dire adieu définitivement à la voiture. Il s'agit plutôt de la réserver aux trajets inaccessibles en vélo, comme parfois l'accès aux soins ou l'accès aux grands centres urbains.
Donc maintenant, je vais vous faire un point rapide sur l'état de l'art que nous avons mené au début du projet. Donc l'état de l'art, c'est une étape qui consiste à rassembler tout un tas d'informations en début de projet pour le poser sur des bases solides. Donc je vais commencer par vous présenter le défi de l'ADEME, sur lequel notre projet s'appuie, puisqu'elle a pour objectif de développer la mise en usage des véhicules développés par ce projet. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public français qui a été créé en 1991 et qui est aussi appelé Agence de la transition écologique. Et l'ADEME, elle a lancé en 2022 l'Extrême Défi, qui est un parcours d'innovation dont l'objectif est de créer de nouvelles solutions de déplacement pour remplacer la voiture dans les déplacements du quotidien des territoires périurbains et ruraux. Donc son objectif, c'est de proposer un véhicule 1000 fois mieux que les voitures que nous utilisons aujourd'hui et qui peut accueillir de 1 à 3 personnes avec peu de chargement. Donc 1000 fois mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 fois moins coûteux, 10 fois plus durable, donc une durée de vie de plus de 100 ans, 10 fois plus léger, entre 100 et 150 kilos, 10 fois plus simple, avec des pièces simplifiées et standardisées, 10 fois plus efficient et avec une vitesse. Donc ça, c'est l'objectif de l'ADEME. Et nous, l'objectif de notre projet, c'était d'imaginer leur intégration dans nos habitudes de déplacement. Donc pour cela, on a développé une réponse qui se base sur le principe de l'autopartage d'une flotte commune. Donc je vais vous définir rapidement l'autopartage et vous donner quelques chiffres clés qui le concernent ensuite. L'autopartage se démarque du covoiturage car il consiste à partager un véhicule dans le temps et pas en même temps, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre d'utilisations de chaque véhicule par jour et aussi de diminuer le nombre de véhicules en circulation. D'après une étude du cabinet Sisté qui a été commandée par l'ADEME, un véhicule autopartagé peut remplacer entre 4 jusqu'à 8 véhicules. En 2013, Bruno Cordier il distingue trois différentes formes de partage de la voiture. Donc, le premier, c'est l'autopartage entre particuliers, qu'on connaît par exemple avec le site Blablacar, la location entre particuliers, et le dernier, c'est le service d'autopartage, auquel on s'est le plus intéressé durant notre projet. Le service d'autopartage il consiste à louer un véhicule à une plateforme que l'on va venir récupérer à une borne, et il couvre surtout les locations courtes et moyennes durées. Donc, par exemple, si on a besoin d'aller au travail chaque jour, ce service fait très bien l'affaire. La location se fait à l'heure et au nombre de kilomètres parcourus, et il faut aussi un abonnement au service pour l'utiliser. Une étude de l'ADEME de 2022 sur l'autopartage en France nous donne les chiffres qu'en 2019, il y avait 19 structures qui proposaient un service semblable à l'autopartage et elles étaient essentiellement présentes dans les villes de plus de 100 000 personnes où les personnes peuvent les bornes pouvaient permettre de désengorger le trafic rapidement. Un exemple, c'est Okigo qui est présent à Paris et sa proche banlieue depuis 2008 et qui propose des voitures partagées. D'autres grandes villes comme Lille, Nantes, Bordeaux ou Toulouse étaient aussi pourvues d'un réseau d'autopartage dès 2019. Toujours selon la même étude de l'ADEME, on sait que la durée moyenne d'utilisation est de 5 heures et la distance moyenne parcourue est d'une cinquantaine de kilomètres en zone urbaine. On sait aussi que ceux qui souscrivent à un service d'autopartage le font pour des raisons écologiques, mais avant tout pour des raisons financières, comme on a pu l'entendre dans l'extrait audio de tout à l'heure. Et cette solution, elle est plus économique que l'achat d'un véhicule. En 2008, la France comptait 9400 abonnés et aujourd'hui, on compte 15 opérateurs qui proposent près de 12 000 véhicules en autopartage dans la plupart des territoires denses. Donc 100% des métropoles en sont dotées et 83% des communes de plus de 50 000 habitants aussi. Donc on remarque que ces services sont encore peu développés dans les milieux plus ruraux et c'est sur ce point que nous nous sommes attardés durant notre projet. Donc maintenant, on va écouter un court extrait audio qui parle d'une application d'autopartage. Il s'agit d'une interview de Mathieu par le métier à Brut qui date du 16 mai 2023.
Vous, philosophiquement, le concept me plaît de me dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'être tous propriétaires des choses et on peut les partager. C'est peut-être la bonne chose qu'a apporté le numérique sur tous ces aspects. En gros, l'avantage des applications d'autopartage par rapport aux loueurs traditionnels, c'est que je m'évite toutes les formalités à remplir, la vérification de l'état des lieux avec le loueur, qui peut prendre beaucoup de temps. Alors que là, une fois que j'ai récupéré la voiture, que je suis à côté, en 3 minutes, je démarre. Donc voilà la bête. Et voilà. Et là, c'est déverrouillé. Et la porte, elle est ouverte. Quand j'en ai besoin, je la rends quand j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, on essaye de dire qu'il faut essayer de faire du remploi, de réutiliser les choses, que chaque personne ait une voiture qui va lui servir 10 ou 15 ans. Si tu veux, c'est un concept qui me dépasse un petit peu. Donc en fait, le fait de pouvoir en avoir une et qui va servir non pas une personne, mais à 20 ou 30 personnes qui habitent à côté, je trouve ça beaucoup plus logique, quoi.
Donc c'était l'extrait d'une vidéo tirée de la chaîne YouTube de Brut. Et maintenant, je vous passe la main à Anaïs.
Donc je vais maintenant vous parler du maquettage. Donc en fait c'est une étape qui nous a permis de créer des mises en situation concrètes et nous ont permis ainsi de mieux comprendre comment nos idées s'articulent en réalité. Donc ça a permis de mettre en avant les gains en termes de soutenabilité et de convivialité, mais également les leviers soulevés, donc l'alerte, l'optimisation ou encore l'imagination. Donc vous vous demandez peut-être en quoi consiste la soutenabilité et la convivialité. Donc la première notion de soutenabilité, ça caractérise en fait la capacité des dispositifs techniques humains à ne pas nuire à l'environnement, et donc en essayant pour ce faire d'adopter une démarche écosystémique. Donc quant à la convivialité, ça repose sur la possibilité pour nous, donc en tant qu'êtres humains, d'avoir le choix d'utiliser ou non les objets à notre disposition, et ainsi pouvoir agir en vertu de nos besoins. Donc au cours de la phase d'idéation, on a pu mettre en avant les différents usages de nos flottes de véhicules, et ainsi voir les différents moyens permettant à ces nouveaux véhicules de s'inscrire dans la vie de tous les jours, et donc les services qu'on va pouvoir associer. Donc on a écrit plusieurs petites histoires et je vais donc vous présenter ici deux situations présentées sur notre site. Donc premièrement le retrait d'un véhicule dans la flotte la plus proche, puis le service de dépannage. Donc pour ce faire, on va prendre l'exemple d'un utilisateur, donc Hugo. Donc Hugo souhaite réaliser un trajet, il a donc besoin d'aller retirer son véhicule dans la flotte la plus proche de chez lui. Donc pour ce faire, il peut s'y rendre par le moyen qu'il le désire, donc à vélo ou à pied. Donc une fois qu'il sera sur place, il trouvera devant lui une borne où il pourra retirer son véhicule réservé au préalable via l'application ou sur le site internet. Donc il présentera son QR code qui est fourni lors de sa réservation et il pourra alors visualiser sur la borne toutes les informations relatives à sa réservation et obtiendra en même temps les clés de son véhicule. Il pourra ainsi aller dans l'allée correspondante et peut ensuite effectuer son trajet. Donc le système de borne permet ainsi une autonomie des utilisateurs de la flotte en minimisant le temps de retrait. Mais il permet également aux gestionnaires de la flotte locale de se concentrer sur l'entretien des véhicules qui ne vont pas être utilisés au cours de la journée. Et donc ça permet de proposer des véhicules toujours propres et fonctionnels. Donc pour ce qui est de la convivialité, il apparaît que les bornes de retrait présentent un défaut. Elles ne sont pas forcément évidentes à manipuler pour tout le monde. Donc face à cet obstacle, on peut imaginer que les gestionnaires présents dans chaque station vont pouvoir aiguiller les utilisateurs en cas de difficulté. Donc ce système de bornes soulève le levier de l'optimisation puisqu'elles vont rendre optimal le processus de retrait des véhicules en permettant un gain de temps. Donc maintenant qu'Hugo a fait sa journée de travail, il va vouloir rentrer chez lui. Donc pour ce faire, il va reprendre la route. Cependant, après quelques kilomètres, il s'aperçoit que la route, son véhicule à assistance électrique est crevé. Il va alors être contraint de s'arrêter et va pouvoir utiliser le bouton assistance de son véhicule. Donc ce bouton va permettre une géolocalisation grâce au système GPS présent sur son véhicule. Et ainsi, le dépanneur le plus proche pourra venir le dépanner et ramener son véhicule dans la flotte de départ. Donc on peut noter que chaque véhicule possède ce genre de GPS qui permet l'envoi d'un signal pour localiser le véhicule et préciser le type de véhicule afin que le dépannage soit ciblé et le transporteur vienne avec le véhicule le plus adapté. Donc le système permet à l'utilisateur de signaler une panne et d'obtenir rapidement de l'aide, mais également d'être assisté en cas de panne et pouvoir retourner à sa station de départ. Le système permet également d'optimiser au mieux le déplacement du dépanneur, puisque grâce au système GPS, l'empreinte va être réduite pour ce qui est du transport du véhicule, et ça permet également une réduction du temps d'attente pour l'utilisateur. Donc en termes de soutenabilité et de convivialité, le système de dépannage est convivial puisqu'il est utilisable dès que le besoin s'en fait ressentir et ce sans restriction. Il permet ainsi aux usagers de disposer d'une assistance adaptée à leur véhicule. Il est également soutenable puisque grâce à la géolocalisation du véhicule, le dépanneur envoyé le plus proche et le dépanneur qui est envoyé est situé le plus proche possible du lieu de la panne. Ça permet ainsi de limiter la pollution due à un trajet non optimisé. Donc enfin, le système soulève deux leviers. Donc tout d'abord, l'optimisation, puisqu'on va optimiser l'intervention du trajet. Et ensuite, le second levier soulevé est l'alerte, puisque dans l'intérêt de l'entreprise, il s'agirait au plus d'éviter ce genre de situation qui représente un coût non négligeable et pourrait donc altérer le fonctionnement optimal du service. Donc maintenant que j'ai parlé du maquettage, je vais passer la main à mon amie Charline qui va finir la présentation.
Bien, donc la troisième partie de cette présentation, donc on va parler de l'auto-évaluation. Donc l'auto-évaluation, c'est une étape qui est non négligeable et qui caractérise l'approche low-tech parce qu'elle permet d'anticiper les effets positifs et négatifs qui n'étaient pas prévus initialement dans le projet, mais que le projet pourrait engendrer par sa création et sa diffusion à grande échelle dans les années à venir. Donc on a choisi de vous présenter deux outils d'auto-évaluation. Le premier, c'est l'effet rebond. Donc, c'est l'ensemble des phénomènes d'optimisation d'un service qui engendre le contraire de ce qui avait été désiré. Et donc, dans le cadre des deux idées qu'Anaïs vient de vous présenter, on a réussi à dégager deux effets rebonds. Donc, pour ce qui est le retrait du véhicule, un point très important, c'est le dimensionnement des stations dans les villages. Ce dimensionnement, il est très complexe parce qu'il doit prendre en compte de nombreux paramètres. Le nombre de jours de pluie par an, les habitudes de déplacement local ou encore le nombre de travailleurs potentiels. Donc un effet rebond non négligeable, ça serait un mauvais dimensionnement des différentes stations qui engendrerait soit un manque d'offres pour les clients qui donc se désintéresseraient du projet et continueraient d'utiliser leur voiture actuelle, soit une offre trop importante qui engendrerait donc une surproduction des véhicules de l'ADEME qui ne seraient que peu ou pas utilisés et donc une surutilisation des ressources. Donc la question de ce dimensionnement, elle est essentielle et elle est susceptible de causer des effets très négatifs si elle n'est pas correctement abordée. Pour le dépannage, on a vu qu'en cas d'accident, la plateforme elle prévoit l'intervention d'un dépanneur et que l'utilisateur il n'a qu'à utiliser l'onglet approprié dans son application. Cependant, il y a certains utilisateurs comme M. Croza qui pourraient ne pas avoir de smartphone. Et si M. Croza il a un accident, il ne pourrait pas contacter le service de dépannage s'il n'a pas l'application. Donc c'est pour ça que c'est un effet rebond très néfaste aussi, parce qu'en fait, on va mettre en danger les utilisateurs qui n'ont pas de smartphone. Donc le système, en fait, peut ne pas devenir convivial pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Donc c'est pour ça que, pour répondre à cette contrainte, on a décidé de mettre en place des balises GPS. On n'est pas du tout dans une politique de collecte de données, de tracer les déplacements des usagers, mais seulement pouvoir leur venir en aide. Et aussi, si jamais les véhicules sont volés ou ne seront pas rendus, pour pouvoir les géolocaliser. Donc le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est l'outil fermeture. Donc la fermeture, c'est l'organisation de la fin de la création, de la production et de l'usage de certaines technologies. On peut dire que si on développait massivement l'usage de notre service, alors on pourrait envisager la diminution de la production de voitures classiques. On pourrait également envisager la fermeture des stations essence pour en faire, par exemple, des stations de rechargement électrique. On peut aussi dire qu'on n'aurait plus besoin de tous les différents constructeurs de voitures qui existent aujourd'hui. Et donc, on pourrait envisager la fermeture de plusieurs unités de production et ne garder que le nombre nécessaire à la production des pièces de rechange, du renouvellement des véhicules intermédiaires. Donc, il y a une prérogative de l'Union européenne en 2035 qui interdit la vente des véhicules thermiques. Donc, dans ce cas-là, notre projet, s'il était mis en place, il aurait une mise en avant très importante parce qu'il devrait gérer cette fermeture et répondre à une demande nouvelle et croissante. Donc rapidement, les stratégies qu'on pourrait mettre en place, par exemple, donc l'enjeu, ça réside dans les déchets que vont représenter les voitures individuelles qui vont être délaissées. Donc on pourrait penser à réutiliser ces ruines dans la production de nos véhicules intermédiaires, comme la récupération des pneus en bon état, des rétroviseurs ou des commandes de direction. Pour les stations à essence, on l'a dit, on pourrait en faire donc soit des stations pour nos véhicules alternatifs. Et pour les cuves, par exemple, une fois qu'elles auront été dépolluées, on pourrait s'en servir comme de la captation des eaux de pluie ou des bassins de rétention lorsqu'il y a des inondations. Et enfin, puisque les véhicules de l'ADEME ils auront une durée de vie très importante, de plus de 100 ans, et que leur production elle sera strictement limitée aux besoins exprimés par les gestionnaires des flottes communales, on aura sans doute des problèmes importants à terme qui vont être posés pour l'emploi dans l'industrie automobile. Mais on aurait à ce moment-là donc la possibilité de reconvertir les employés, par exemple, dans le service de maintenant des flottes, puisqu'ils ont le savoir-faire nécessaire.
Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Donc, je précise très rapidement que l'outil fermeture que vous avez développé se base notamment sur des concepts empruntés à Alexandre Monin et ses collègues autour d'un livre qui s'appelle « Héritage et fermeture ». Alors, il y a un certain nombre de questions. Je vous propose que l'on prenne à présent pour approfondir et prolonger un petit peu ce que vous nous avez présenté. Tu en as parlé peut-être un petit peu à la fin, Charline, avec la notion de fermeture, mais on pourrait se poser la question également des infrastructures, c'est-à-dire est-ce que vous envisagez que finalement ces véhicules vont partager les routes existantes, ou est-ce que vous envisagez qu'à terme on puisse spécialiser une partie des routes? Est-ce que ces infrastructures, ces routes vont devoir être gérées par les collectivités? Qui va prendre ces décisions? Donc là il y a une dimension un peu politique que l'on pourrait qui se pose sur quelles infrastructures sont utilisées par quel type de véhicule et qui décide ce que l'on peut faire?
Oui, donc c'est une très bonne question on en a parlé sur le site internet du projet. C'est quelque chose qu'on avait envisagé de créer des espaces qui seraient dédiés à ces véhicules intermédiaires, parce que aujourd'hui on peut pas raisonnablement vouloir mettre en avant des véhicules qui sont pas surdimensionnés, qui ne roulent pas à 130 à l'heure ou facilement à plus de 70 km/h, vouloir mettre en avant des vélos électriques, et en même temps vouloir que ces véhicules ils partagent la route avec des gens qui sont très pressés le matin dans leur voiture 5 places, qui vont vite, qui font pas attention. Donc oui, on y avait pensé à créer des tronçons, surtout quand on arrive en ville, puisque nous on va toucher des grandes villes à moins de 30 km, donc on va pas faire des portions qui relient les grandes villes, mais plutôt qui arrivent, donc qui sont aux abords de ces grandes villes. Et voilà, après on a conscience que ça aura certainement un impact, parce que créer des tronçons c'est très cher, c'est très polluant. Si on réduit en même temps l'espace déjà existant, ça va créer des bouchons, donc il y aura aussi de la pollution. Donc on est consciente que c'est un problème très complexe, mais on ne peut pas vouloir que tout le monde roule sur les mêmes espaces.
Une autre question, c'était finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un service comme le vôtre de partage de véhicules? Est-ce que, puisque par rapport aux distances que vous préconisez, est-ce que les gens ne peuvent pas simplement utiliser des vélos, ce qui serait encore plus, encore plus économe que de recréer les différents éléments dont vous avez parlé. Donc, qu'est-ce qui fait que la solution vélo classique, entre guillemets, n'est pas suffisante par rapport à votre contexte?
Je dirais que c'est parce que c'est pas forcément adapté. Par exemple, une personne qui va vouloir aller faire ses courses, en vélo, c'est pas suffisant. Si elle est chargée, par exemple, elle a acheté des packs d'eau, tout ça, elle pourra pas forcément les transporter en vélo classique. Donc, il lui faudra peut-être un vélo cargo ou quelque chose comme ça. Ou alors, une personne qui fait des travaux, elle devra transporter des matériaux. Donc, elle pourra alors louer un véhicule différent selon ses besoins, en fait. Donc, c'est plutôt ça qu'on veut imaginer dans notre projet. C'est que le vélo, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant pour tous les déplacements.
Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Prolonge, pardon.
Et pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'aussi en fonction de l'âge, c'est pas facile de faire 50 km tous les jours. Voilà, ma grand-mère, elle va pas faire 50 km tous les jours à vélo. Et se pose aussi la question des intempéries. Quand il pleut, comment on fait? Est-ce qu'un caouet suffit ou est-ce qu'on a besoin d'une voiturette pour être protégé? Donc voilà.
Ouais, c'est ça. Votre projet, il pose vraiment la question du remplacement du mode de déplacement voiture et non pas simplement de mettre quelque chose à côté, puisque avoir un vélo effectivement et l'utiliser à la place de sa voiture quand il fait beau, qu'on n'a rien à porter, qu'on va pas trop loin et qu'on n'a pas de sciatique, ça va bien. Mais effectivement, le jour où on a des problèmes, ça va pas. Donc, ça suppose l'existence des deux moyens. Or, dans votre projet, je crois, l'idée, c'est justement de pouvoir à terme se passer au moins de l'un ou des deux véhicules qui sont en général possédés par les ménages en campagne. Charline, tu veux ajouter quelque chose ?
Non, oui, c'était juste pour ajouter aussi rapidement que nous, on est à Compiègne, donc on s'en rend pas forcément compte, mais il y a des régions dans lesquelles même à moins de 30 km des villes, on a des reliefs qui sont quand même relativement importantes. Moi, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, comme Émilienne, et on sait très bien que si moi, je partais de là où j'habite, dans mon petit village, pour aller à Paume, aller au lycée, c'est pas possible. J'ai du dénivelé, j'ai autre chose. Voilà, j'ai pas forcément envie. Et autant que les gens ne prennent pas leur voiture diesel et qu'ils prennent aussi des petits véhicules qui ont été pensés par l'ADEME, plutôt que de renoncer devant tout ce qu'on a dit et de reprendre leur véhicule polluant.
Ok, alors peut-être une dernière question un peu en ouverture, même si tu l'as, vous en avez parlé un tout petit peu à un moment. Mais une des personnes pose la question du GPS. C'est-à-dire, vous dites, ok, dans nos véhicules, il y aura un GPS. On pourrait aussi poser la question carrément de l'application informatique. C'est-à-dire que là, votre solution, elle dépend du système GPS, elle dépend des réseaux informatiques. Alors, elle ne dépend pas totalement du smartphone, on a compris, mais vous avez quand même une dépendance à ces réseaux-là. Or, on pourrait peut-être imaginer qu'on ait un système qui fonctionne sans ces éléments d'infrastructure-là. De ce point de vue-là, ce serait plus convivial, on aurait moins de dépendance aux technologies. Même si tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif de la collecte de données ici ne serait pas publicitaire ou de tracking pour tracer les déplacements des personnes, mais on sait que lorsque les données existent, il y a toujours une tentation ou des tendances à les exploiter pour autre chose. Donc voilà, est-ce que vous avez interrogé un peu ces aspects-là? Je ne sais pas si vous voulez dire des choses ou si ça reste juste peut-être des choses en ouverture pour la suite.
C'est une question sur le rapport à l'application?
Ouais, la question en fait, elle est en quelque sorte, hein, si je traduis ce qui a été mis ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, de la fonction GPS, même si vous avez expliqué à quoi ça sert, est-ce qu'on a vraiment besoin de la fonction application? Est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner sans GPS? Après tout, si des gens qui vont au lycée connaissent la route, ils pourraient avoir un être humain qui les accueille et puis qui note sur du papier ce que les gens font. Donc on pourrait imaginer qu'ici, la dimension numérique n'entre pas en compte.
Alors normalement, on est censé pouvoir utiliser le système sans application parce que dans les flottes qui sont proposées, on a aussi un système de bornes où les gens ils peuvent directement louer, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas anticiper leur trajet ou alors ils sont contraints de choisir un véhicule qui est disponible au moment là où ils sont arrivés et pas en avance. Et après, oui, on est d'accord avec les remarques. Oui, forcément, aujourd'hui, on sait que quand il y a de la collecte de données, il y a de la réutilisation, il y a de l'influence. Mais nous, aujourd'hui, on pense que dans ce système, il y aurait besoin de savoir où sont les véhicules, parce que sinon, on paye une course, je ne sais pas, 1 € pour la journée, et on repart avec un véhicule. Et le véhicule, il est où ?
Ouais, donc effectivement, le numérique ici va vous aider à régler un certain nombre de points, comme la question du vol ou de la disponibilité que tu as cité. Hein. C'est bien tout le. Je pense que c'est un des objectifs du cours aussi, de voir que, à un moment, on essaye de réduire peut-être un certain nombre d'usages numériques, mais de voir aussi qu'il y a des endroits où ça peut rendre service, même si, notre petite discussion montre que c'est toujours un peu en questionnement. Eh bien, Charline, Emilienne, Anaïs, je vous remercie de cette présentation. Je vous rappelle que vous êtes sur Graphite 94.9, qu'aujourd'hui on présente les projets IS03, l'autechnicisation numérique, qui ont été réalisés par des étudiantes et étudiants de l'UTC. Donc là, c'était le projet ContrixD qui consiste à réfléchir sur une application de partage de véhicules qui permettent des déplacements périurbains. On a eu également la présentation du projet Kosoko sur la comptabilité de l'impact environnemental du citoyen et le chaton sportif sur l'alimentation d'un serveur par des cyclistes. Et puis, nous allons d'ici 5 minutes environ parler du projet EcoCAD dont l'objectif est de proposer un logiciel de conception accessible à chaque citoyen pour mener des projets low-tech. Et donc, on va faire une petite pause en attendant. Merci à toutes les trois et à bientôt.
Merci à vous d'avoir suivi ce projet.